Un mois après un drame familial à Tétroville en octobre dernier qui a fait en sorte qu'un père s'est enlevé la vie après avoir tué ses deux enfants, Hugo et Élise, mais il y a un autre drame, un autre père qui a commis un geste irréparable, un homme qui avait des problèmes de santé mentale, qui a tué sa famille, sa conjointe et ses deux fils. Il est ensuite allé dans un hôpital où il y a apparemment pas de lien là, avec lui. Il n'était pas traité à cet hôpital-là, à Joliette. Il est allé au sixième étage, il a ouvert la fenêtre et il s'est jeté en bas. C'est affreux, ces histoires. Et je ne sais pas comment l'aborder différemment ce matin, sinon que de vous faire entendre le témoignage de ma première invitée sur le sujet, Mirabelle Poulain. Bonjour, Madame Poulain.
Bonjour.
Vous venez de publier cette semaine, c'était mardi, en fait, que votre lettre a été publiée, une lettre que vous écrivez au système de justice. C'est donc avant que ce drame, ce nouveau drame, éclate. C'est une lettre dans laquelle vous témoignez du fait que, comme survivante de violence conjugale, vous avez été avec un conjoint violent, vous êtes allée voir la police et vous n'avez pas été prise au sérieux. Racontez-moi brièvement votre histoire, Mirabelle.
Oui, ben, j'ai une relation de couple de 5 ans avec cette personne-là. Et puis, je suis séparée depuis 4 ans déjà. Par contre, on trouve le courage au fur et à mesure où on se reconstruit de pouvoir parler. C'est pas forcément tout de suite qu'on va porter plainte. J'ai vécu beaucoup de violences sous différentes formes. Et au mois de mars dernier, j'ai pris mon courage et j'ai été porter plainte à la police. Et j'ai été vraiment très, très mal, autant mal reçue et pas du tout crue, en fait.
Qu'est-ce que vous leur avez dit aux policiers?
J'ai tout raconté dans ma déposition. Ma déposition écrite avait 8 pages de tous les gestes qui avaient été commis à mon égard. On m'a dit, vous savez, madame, c'est très dur à prouver la violence conjugale. Oui, je sais. C'est très dur à prouver encore plus les agressions sexuelles au niveau du couple. Oui, on le sait. Parce que naturellement, on n'a pas de témoins. L'inspecteur m'a même dit, j'espère, madame, que vous allez avoir une procureure femme, puisque peut-être que vous allez pouvoir faire en sorte de mieux faire valoir votre dossier.
Comme s'il y avait une justice un peu sexiste, finalement.
Oui. Oui. C'est vraiment... bon, c'est un inspecteur de la vieille école à 1 an de sa retraite. Et puis, j'ai eu toutes les tabous possibles au niveau de mon opposition, au niveau de tous les gestes que monsieur faisait, de qu'est-ce que je portais, si je buvais à ce moment-là, tout ce qu'on essaie de combattre.
Genre, dans la catégorie, qu'est-ce que vous avez fait, madame, là, pour le faire sortir de ses gonds? Un peu ça?
Un peu ça, oui.
Oh, mon Dieu. Et vous avez été obligée de défendre votre point, Mirabelle, leur expliquer. Aviez-vous des marques sur le corps? Aviez-vous... vous dites que votre déposition faisait 8 pages. Est-ce que vous étiez en mesure de leur montrer des preuves, puisque c'est ce qu'ils demandaient?
Oui, je leur ai fourni une preuve d'un vêtement déchiré. Et je suis revenue avec... j'ai présentement ma preuve. Ils m'ont remis ma preuve, puisque le dossier s'est rendu chez le procureur et le procureur n'a retenu aucune charge. Encore là, j'ai débattu mes points et ça n'a rien donné. Là, et puis après ça, naturellement, ils nous remettent notre pièce à conviction et on s'en retourne chez nous.
Voyons donc. Est-ce que vous avez l'impression qu'on ne croit pas les femmes aujourd'hui qui vont à un poste de police? Parce que dans les cas qui nous occupent, que ce soit cette semaine ou même le mois dernier, les femmes sont allées se plaindre. Elles sont allées dire qu'elles se sentaient en danger. Celle de cette semaine, cette dame a porté plainte. Son mari est allé en cour. On l'a finalement laissé tomber l'accusation, mais il y avait eu un ordre une interdiction de contact, ce qu'on appelle un 810 dans le jargon policier. Donc, il y a eu une prise en charge ici, une certaine reconnaissance d'un acte, d'un voie de fait pour le moins, mais ça n'a rien donné non plus. Le mois dernier, l'homme qui s'est enlevé la vie avant de tuer ses enfants avait été traité pour problèmes psychiatriques. Donc, il y a quand même des preuves d'une certaine façon. Il y a des gestes qui sont posés. Bon, ça se fait qu'on les ignore, d'après vous.
Comme la preuve, hein? C'est sûr que dans le contexte de la violence conjugale, c'est le témoignage de un contre l'autre. Mon ex-conjoint n'a même pas interrogé tellement je n'étais pas prise au sérieux.
Ah oui, donc il n'a pas été importuné du tout?
Du tout, du tout.
C'est fascinant, ça.
C'est fascinant puisqu'ils abusent également par la suite, après la séparation, de toutes sortes de manœuvres aussi. La violence ne se termine pas, comme on peut voir, tout de suite après la séparation. Ça dure des années, là, la violence financière, entre autres, la violence psychologique, ils utilisent les mêmes manœuvres.
Et vous en êtes où aujourd'hui avec ce conjoint violent?
Plus de contact, là. Je prie pour que ça continue. Mais on reste toujours sur nos gardes, vous savez, hein, après 4 ans, on fait encore des cauchemars.
Je sais tellement, Mirabelle, je sais tellement ce que vous vivez. Je l'ai vécu moi aussi.
On reste toujours aux aguets. Je pense que c'est, on fait installer un système d'intrusion dans notre maison, puis on prie, parce que quand on va déposer plainte, on se lève contre notre agresseur. Donc, ça nous prend déjà beaucoup, beaucoup de courage pour y aller. C'est pas parce qu'on n'a rien à faire qu'on va au poste de police raconter toutes les choses intimes qui s'est passé dans notre couple. On a honte, mais on essaie de trouver le courage quand même. Et en tout cas, pour ma part, je peux pas dire que c'est le cas pour tous, mais on est difficilement cru. Et je trouve ça dommage. Juste le fait de se faire dire « je te crois ». Je peux peut-être pas le prouver, mais je te crois. On n'a même pas forcément ces mots-là. Autant du côté des inspecteurs que des procureurs.
Est-ce que vous craignez encore aujourd'hui que votre ex-conjoint pète sa coche à un moment donné, il se réveille puis a envie d'aller vous tuer?
Oui, c'est possible. Tout est possible. Je ne sais pas combien ça prend de temps pour vraiment faire en sorte de ne plus avoir peur. Est-ce qu'on arrête d'avoir peur un jour?
Vous avez eu des enfants, je pense, d'une première union, Mirabelle. Avez-vous eu peur pour vos enfants?
Oui. Et je l'avais mentionné d'emblée au poste de police quand j'avais été porter ma déposition. Je m'étais aussi informée à la base si mon ex-conjoint le savait de façon instantanée, parce qu'on n'est pas bien informé encore au niveau du système de justice.
Ouais,
je voulais
ça.
Pouvoir prendre des mesures adéquates pour me protéger. Parce que ça risque toujours de s'envenimer à partir du moment où l'autre personne est au courant qu'on fait ce geste-là. Hein?
Ouais. J'ai Nicole Gibault avec moi qui est juge à la retraite. Bonjour, Nicole.
Bonjour, Isabelle.
À la lumière du témoignage de Mirabelle Poulain, qui est survivante de violences conjugales, mais qui n'a pas été crue quand elle est allée au poste de police de sa localité, plusieurs fois d'ailleurs, pour y raconter toute son histoire, les détails, déposition de 8 pages. Bon, il a dit, madame, on peut rien pour vous. Quoi dire là-dessus, Nicole? Qu'est-ce qu'on peut dire?
Je vous avoue, Isabelle, que c'est tout à fait décourageant et déstabilisant ce que je viens d'entendre. Et de un, j'aurais compris si on parle des années 60, 70 peut-être, là, 4, puis encore, mais qu'on ait encore, que ça nous traverse l'esprit, qu'on a, on raconte certains gestes. Et la phrase est importante de ce que madame a dit. Si on peut vous dire, écoutez, madame, on vous croit, mais ça peut être difficile à prouver. Au moins, ça commence bien une conversation, puis il me semble que ça met en confiance. On n'a pas de raison. Peut-être pas je vous crois, parce que ça, c'est vite, là. Mais on n'a pas de raison de ne pas vous croire jusqu'à date, là. Mais vous devez comprendre que c'est difficile à prouver. Mais malheureusement, puis j'ose espérer que là, on parle de peut-être un enquêteur ou quelqu'un qui était peut-être pas à la même époque, là, en même temps, là. Mais moi, j'ai vu une grosse différence dans les années où j'étais et avocat, parce que depuis 77, là, jusqu'à aujourd'hui, et juge. Et oui, il y a eu une évolution. Ça me ramène en 1977, puis encore. Je me semble que j'entends des propos qu'on ne devrait jamais plus entendre, plus jamais, que ça soit d'un enquêteur, que ça, de la police, que ça soit du DPCP. En ce qui a trait au procureur de la Couronne, je comprends leur devoir, je comprends le contexte, je comprends la difficulté. Sauf que je trouve qu'aujourd'hui, puis c'était pas le cas dans mon temps, là, j'ai vieillot quand on dit dans mon temps, mais écoutez, ce que je veux dire, c'est que il me semble que on avait un peu plus, on allait à la guerre. C'est comme ça que je vais le dire. Je pense que la Couronne allait un petit peu plus à la guerre. Là, maintenant, je sais pas pourquoi, là, il y a tellement de balises, puis de clôtures, puis de gestes à poser, puis d'autorisation, puis de ci, puis de ça. Souvent, je me demande pourquoi, s'ils n'ont pas, que ce soit une preuve avec une personne qui témoigne contre une autre personne, qu'est-ce que c'est ce tabou-là de dire que c'est pas vrai, que ça peut pas exister, qu'on peut avoir une condamnation? C'est faux! J'ai déjà condamné des gens qui ont fait une version un contre l'autre, mais il y avait un ensemble de facteurs également. Ça peut exister, mais pourquoi automatiquement penser que quand il y a deux versions, on peut pas avoir une condamnation? C'est pas vrai.
Mais moi, j'ai l'impression, Nicole, que, et puis je vais demander aux auditeurs ce qu'ils en pensent, mais j'ai l'impression que on traite encore les violences dans les familles où il y a des enfants impliqués, des conjoints, conjointes impliqués, comme quelque chose à part comme violence. On nous dit depuis quelque temps, là, puis il faut le dire, on disait crime passionnel. C'était comme pas un crime...
C'est vrai, ça.
On disait crime passionnel. Là, on a compris, il faut plus dire ça. Parce que c'est pas de la... Il y a pas de passion, il y a pas d'amour là-dedans, il y a juste un bad trip de pouvoir. Mais là, juste le fait de dire violence conjugale, moi, je dirais... Pas conjugal, violence, point. C'est de la violence.
Vrai.
Le gars, là, cette semaine, qui s'est suicidé, là, qui s'est jeté en bas du sixième étage après avoir tué sa femme et ses enfants, il a battu sa femme deux fois. Il est allé. Trois semaines. Il l'a frappé. Trois semaines après, il a récidivé. Sa femme a porté plainte. Il a été arrêté. Il a été libéré sous condition. Il n'avait pas le droit d'entrer en contact avec elle. Comment on l'a échappé, celle-là?
Isabelle, j'excuse absolument pas ce qui s'est passé dans ce dossier-là, puis au contraire, puis en plus, je vais vous ajouter qu'il y avait probablement des pistes de santé mentale. J'ai hâte d'entendre...
Gilles Chamberlain qui est avec nous.
Oui, absolument, parce qu'il y avait des pistes là-dedans. Est-ce que la Couronne, lors de la comparution ou est-ce que la Couronne n'avait pas un peu de détails puis demandait un examen plus profond ou quelque chose? Parce que moi, je me souviens, quand on faisait des enquêtes sur remise en liberté, on avait une équipe qu'on demandait aller vérifier pour la violence. Docteur Chamberlain va probablement s'en souvenir. Aller vérifier si cette personne-là a des capacités d'être violent. Ici, on avait à peu près tout ce qu'on pouvait sur un plateau d'argent pour essayer de prendre des mesures. Mais j'ajoute ceci en terminant. Souvent, et je ne sais pas si c'est le cas, pauvre dame est décédée, mais est-ce qu'ils ont, elle aurait dit non, je ne veux pas témoigner. Puis combien de fois je l'ai entendu, Isabelle, je retire ma plainte alors que c'était pas à eux à retirer, mais je ne veux plus témoigner, je ne veux pas témoigner, mais c'est la crainte qui les envahit.
Voilà. On va s'arrêter ici. Merci beaucoup, Nicole Gibault, juge à la retraite. Merci beaucoup, Mirabelle Poulain, survivante de violences conjugales. Merci pour ce témoignage qui nous montre qu'encore aujourd'hui, il y a énormément de choses qui ne sont pas faites. Et la première, c'est qu'il faut absolument que quand une femme sera à un poste de police, qu'elle soit au moins prise au sérieux. Merci à toutes les deux. On va poursuivre avec le docteur Gilles Chamberlain, psychiatre, tout de suite après la pause. S'il y a des gens qui ont des commentaires pertinents, bien sûr, vous pouvez m'appeler au 514-790-9850. On parle de ce drame familial qui nous a encore troublé beaucoup cette semaine. Comment prévenir la détresse des hommes pour qu'ils évitent de s'en prendre à leur famille? On a le docteur Gilles Chamberlain avec nous, psychiatre à l'Institut national de psychiatrie légale Philippe Pinel. Bonjour, docteur Chamberlain.
Bonjour.
Visiblement, on est incapable de prévenir la violence conjugale.
On a beaucoup de difficultés pour deux raisons. C'est sûr que s'il y a de la maladie d'impliqué, là, peut-être que le système qui suivait déjà cet individu-là aurait pu être plus vigilant. S'il n'y a pas de maladie d'impliqué, ça devient d'autant plus difficile. On ne peut pas médicaliser tous les cas. L'autre problème aussi qu'on a, c'est que j'évaluerai environ 90% des plaintes contre les psychiatres. c'est des plaintes de patients qui estiment qu'ils ont été gardés un peu trop longtemps ou pour qui on a voulu faire des évaluations quand on n'aurait peut-être pas dû. Donc, il y a vraiment, au niveau de la société, là, un dilemme. Est-ce qu'on, comment on va faire pour évaluer ces gens-là, pour avoir le droit de les évaluer? Parce que même si ce n'est pas médical, on peut toujours évaluer la dangerosité. On a des bons outils pour ça, puis on peut donner une bonne idée là, du risque qu'un individu peut présenter.
Vous parliez de la maladie ici, de la maladie mentale, dans les deux cas qui nous occupent, là, parce que là, c'est deux fois en deux mois, fin octobre, là, aujourd'hui, cette semaine. Le mois dernier, en octobre, le père était suicidaire. Il avait été même vu. Là, cette fois-ci, Saad a consulté plusieurs fois en psychiatrie, apparemment. Il n'était pas suicidaire, mais c'était quelqu'un de violent. Même en octobre, le père aussi était violent. Il avait été intercepté par les policiers, puis s'en était même pris violemment à eux. Là. Il se débattait, puis visiblement, ce n'était pas quelqu'un de calme et paisible. Donc, c'est où que ça va pas, qu'on comprend pas? Là? Comment ça fait qu'on n'est pas capable d'intervenir?
Bien, c'est ça. C'est que à partir du moment où quelqu'un est en colère parce qu'il n'est pas capable d'accepter une situation, puis il se sent pas capable de passer à travers ça, puis de vivre sa tristesse, il reste pris avec la colère. S'il a décidé d'agir sa colère, on n'est plus dans le domaine de la maladie.
Voilà.
La société trouve une façon. S'il y a une problématique psychiatrique qui sous-tend ça, bien là, on peut peut-être essayer de faire quelque chose. À la limite, même si c'est de la colère, puis on est capable de l'évaluer, on peut le garder, mais la loi est claire. S'il n'y a pas un danger immédiat, et c'est rare que le danger est immédiat chez ces gens-là qui sont capables de dire non, ça va, on peut rien faire. On est obligé de les laisser partir. Puis comme je vous dis, toutes les plaintes qu'on reçoit, c'est justement parce qu'on a voulu garder des gens un peu plus longtemps. On s'est fait dire que le danger n'était pas immédiat, qu'on n'aurait pas dû les garder, puis on reçoit des plaintes un peu partout. Fait que le système est fait comme ça, là.
Pourquoi, d'après vous, il est allé se suicider à l'hôpital? Il est allé dans un hôpital où il n'était pas traité. Sixième étage, j'ouvre la fenêtre, il se jette en bas. Pourquoi dans un hôpital?
Au début, on n'avait aucune information à l'effet qu'il pourrait avoir de la maladie dans ce dossier-là. Mais le simple fait qu'il quitte vers une ville qu'il ne connaît pas, pour un hôpital qu'il ne connaît pas, qu'il monte au sixième, qu'il arrache une grille, qu'il se jette en bas, normalement, les gens qui vont commettre ce genre de crime-là vont se suicider peu de temps après, souvent sur les lieux et d'une façon assez rapide parce qu'ils ne sont pas capables de porter la souffrance d'être tout seul au monde et de s'être vengé. C'est extrêmement étrange qu'il se soit rendu dans un hôpital qu'il ne connaît pas pour se suicider de cette façon-là. Ouais. Il est peut-être plus malade qu'on pense celui-là et c'est là que le système de santé aurait peut-être pu réagir s'il était connu.
Merci beaucoup, Dr. Gilles Chamberlain. Merci beaucoup. Et c'est vrai, la colère, la tristesse... Ce n'est pas des maladies, mais c'est des vrais problèmes, puis il va falloir s'y atteler. On s'arrête ici, on se retrouve après les nouvelles. Restez là, tout le monde.